Le journal était présenté par Mathieu Laurent. On vous retrouve Mathieu à 9h. Bonjour à toutes et à tous. Le secret des sources, 5e saison, c'est tout de suite.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Il faut bien l'avouer, la période des rentrées est toujours un moment très attendu avec un mélange d'excitation, de curiosité. Les rentrées, thème du secret des sources ce matin, avec une tornade qui a soufflé sur la rentrée média, une rentrée scolaire sous le signe de la contestation avec une grève déjà annoncée et enfin une rentrée littéraire marathon. Près de 600 romans pour les critiques littéraires. Rentrée scolaire, rentrée média, rentrée littéraire. Comment les journalistes préparent-ils les rentrées? On en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités. Marie-Caroline Missir, bonjour.
Bonjour.
Journaliste spécialisée éducation, vous êtes l'auteur avec Louise Touré, notre consoeur de culture de mer, Libérez-vous, édité chez Plomb. Hakim Kasmi, bonjour Hakim.
Bonjour Frédéric.
Spécialiste éducation de France Culture. Pour les médias, Olivier Milot, grand reporter à Télérama, et Alexandre de Boutet, chef du service médias au Figaro, sont avec nous. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Et puis Ilana Moriousseff, responsable de la rubrique Livres de France Inter, nous rejoindra pour la rentrée littéraire. Notre regard extérieur aujourd'hui dans le secret des sources. Mariette Darigrand, bonjour, sémiologue.
Bonjour.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy avec aux manettes. Cette semaine, Clément Berman. Le clin d'œil, rendez-vous incontournable en fin d'émission de Yacine Bouzard. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Une rentrée scolaire sans incident. Quel sera le contenu des cours de morale et de civisme qui démarrent cette année?
C'est une rentrée où les professeurs et les personnels non enseignants aussi sont au rendez-vous pour accueillir les plus de 12 millions d'élèves qui ont rentré aujourd'hui.
Nous avons créé, depuis 2012, plus de 35 200 postes supplémentaires.
C'est une rentrée importante parce que c'est la troisième de la refondation de l'école et un certain nombre de nouveautés voient le jour.
Ils iront jusqu'au bout de ces recrutements et il y en aura bien 60 000 à la fin 2017.
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale et le chef de l'État, François Hollande, le jour de la rentrée à Pouilly-sur-Serre dans l'Aisne, 60 000 postes. En 2017, on y revient avec vous, Marie-Caroline Missir et Hakim Kasmi. Mais la rentrée scolaire, on ne peut pas y échapper, c'est la règle du jeu. Tous les ans, les caméras, les micros, les journalistes entrent dans les écoles.
Les nouveaux élèves restent avec moi pour que je puisse leur montrer leurs enseignants.
Tu vas lâcher maman après et tu vas rentrer dans la classe, d'accord?
Oui, beaucoup de travail dedans là. Ils sont dans mon sac, c'est trop lourd.
Bonjour, moi c'est Caroline, la maîtresse. Et tu t'appelles?
Asta.
Bienvenue.
Voilà un reportage diffusé dans le journal de 20h de France 2, mardi dernier, le jour de la rentrée. Mariette Darigrand, sémiologue, alors ce que l'on vient d'entendre, et vous avez une expression, c'est le marronnier des marronniers.
Oui, absolument. Le marronnier, c'est ce motif journalistique qui revient régulièrement. Il revient à l'automne. C'est lui qui donne son nom à cette manière très récurrente de faire circuler l'information. Alors la rentrée avec ce mot enfantin, ce mot de notre enfance et qui nous y replonge chaque année, on peut se dire c'est comme si les enfants dictaient l'agenda finalement. En tout cas, les familles. On a quelque chose comme ça qui est de l'ordre du grand public, de la grande consommation. C'est une question. Il faut peut-être s'interroger, en particulier lorsque cette rentrée grand public, essaie de questionner la rentrée politique. Parce qu'on dit souvent que les politiques disent souvent qu'ils sont sous la tyrannie du temps médiatique. Mais je suis en train de me demander hein, cette rentrée, justement, si ça n'est pas un peu l'inverse, hein, parce que finalement, qui fait l'université d'été qui marque la rentrée politique, qui fait la conférence de presse qui marque la rentrée politique, ce sont les politiques.
Hein. Et non, donc, pas les chaînes d'info continues.
Absolument. Donc ça pose quand même une question intéressante pour nous ici qui réfléchissons au métier journalistique. Est-ce que ça n'est pas une façon pour le journaliste d'abandonner un peu de sa posture, de sa prérogative, de ce qui est dans son propre nom ? Journaliste, ça veut dire quand même faire le journal du jour. Alors certes, aujourd'hui, le jour est devenu peut-être la minute, voire la seconde, le temps immédiat, mais il faut certainement garder quelque chose de cette origine, c'est-à-dire la possibilité d'interroger le politique ou l'institutionnel, hein, l'école par exemple, à partir de la compétence du temps. Et là, à ce moment-là, on sort un peu de la bulle de la récurrence, si vous voulez, ce retour permanent des choses, chaque année, chaque moment, la rentrée, et on commence peut-être à s'interroger un peu sur le futur, un futur immédiat. Mais je remarque que les journalistes ont du mal aujourd'hui à imposer quelque chose qui serait de l'ordre de la scansion. Prenons un exemple qui n'est pas dans l'éducation, qui est en dehors un peu de notre champ aujourd'hui, mais la COP21. Eh bien, la COP21, on n'en parle pas du tout là en ce moment, mais on va en parler énormément au mois de décembre. Or, il y a des étapes, il y a un chemin à faire, et ça, je pense que ça fait partie de la mission très importante du journaliste.
Marie-Hédère Rigrand, on vous retrouve un peu plus tard dans l'émission. Alors, Hakim Kasmi et Marie-Caroline Missire, vous êtes d'accord, c'est le marronnier des marronniers, la rentrée scolaire. Comment se renouvelle-t-on, Hakim, d'une rentrée sur l'autre, d'une année sur l'autre ?
On y pense déjà, je vous dirais, dès la fin du mois de juin. Moi, je pense à mes angles en disant, voilà, par exemple, l'année dernière, on a beaucoup parlé des rythmes scolaires. On a même parlé pendant 2 ans déjà. Et c'est important de se renouveler. On savait que l'enjeu, c'était le fait surtout que la réforme des collèges, dont on a beaucoup parlé cette année, n'entrera en vigueur que l'année prochaine, en fait, en 2016. Même si, à force d'en parler, on pourrait croire que c'est cette année. Mais en fait, ce n'est que dans un an. Donc, on essaie de trouver des choses bien anglaises. Alors, par exemple, moi, cette année, j'avais décidé... On vient de parler avec vous d'ailleurs de parler du privé, parce que avec cette réforme du collège, on a beaucoup de parents d'élèves qui se posaient beaucoup de questions, se disant voilà, si on supprime les classes bilingues, les classes européennes, est-ce que je ne vais pas faire le choix d'aller dans le privé pour que mon enfant puisse encore en bénéficier d'une manière indirecte. Il y a aussi le problème de poste, hein, notamment en Seine-Saint-Denis, où beaucoup de parents, même très modestes que j'ai pu rencontrer dans l'année, m'ont dit voilà, l'année prochaine, quitte à ne pas partir en vacances, eh bien je ferai ce sacrifice pour pouvoir scolariser mes enfants dans le privé, même si je n'ai pas forcément l'argent. Et c'est entre autres pour ça que on a décidé sur France Culture de faire le choix de la rédaction du matin sur le privé en cette rentrée.
Alors c'est vrai ce que dit Hakim Kasmi, Marie-Caroline Missire, c'est vrai que dans l'ensemble de la presse, on a le sentiment de vivre déjà la rentrée 2016 et non pas la rentrée de 2015. Tellement la réforme du collège est présente dans le débat. C'est une rentrée très différente, vous l'avez remarqué vous aussi cette année, 2015.
C'est une rentrée paradoxale, elle est à la fois différente, vous l'avez dit, et elle est aussi très ennuyeuse. Hakim, comme moi, a suivi la conférence de presse de rentrée de la ministre Najat Vallaud-Belkacem, qui elle-même avait l'air de trouver le temps long. Cette conférence était interminable et on a déroulé toutes les réformes engagées depuis 2012, tout simplement parce qu'il y en a pratiquement aucune qui s'applique là à cette rentrée, comme l'a dit Hakim. Tout va venir en 2016. Donc ennui d'un côté, et puis une nouveauté quand même, c'est que c'est une rentrée qui est très politique, pour rejoindre ce que vous disiez, madame.
On a beaucoup parlé de livres.
Comme si, il y a le livre d'Alain Juppé qui est sorti un petit peu en avance, avant tout le monde, comme si finalement on était déjà dans une campagne présidentielle. Et c'est ça un peu la nouveauté de cette rentrée. Le débat éducatif se positionne dans un contexte politique et les politiques s'emparent de cette question avec plus ou moins de gourmandise, surtout l'opposition et même l'extrême gauche, puisqu'on a vu Olivier Besancenot et Jean-Luc Mélenchon prendre position sur cette question et tacler la ministre pour Jean-Luc Mélenchon assez violemment cette semaine.
Alors vous nous dites une conférence de presse de rentrée de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre un peu ennuyeuse. Hakim, vous êtes ennuyé aussi ?
Alors, je vais vous faire une confidence, puisque, sans vouloir trahir le secret, j'étais avec plusieurs consoeurs d'autres radios, dont certaines du groupe Radio France, et pour tout vous dire, lorsque l'on a entendu cette conférence de presse, dès le début, quand on a vu que Madame Belkacem faisait son bilan, en fait, depuis un an, on s'est même demandé s'il n'y avait pas un remaniement qui se préparait, pour tout vous dire, Frédéric, Tellement, il n'y avait aucune nouveauté, et tellement, on était vraiment dans le bilan, si vous voulez. Pendant une heure, on a égrené tout ce qui avait été déjà dit, tout ce qui avait déjà été annoncé depuis un an, et franchement, on était très nombreux dans la salle à se demander s'il n'y avait pas un remaniement, si Najat Vallaud-Belkacem ne préparait pas son départ dans un autre ministère. ministère.
Ah, mais c'est pas rien cette réforme des collèges dont on parle déjà cette année. Alors comment fait le ministre de l'Éducation, en l'occurrence Najat Vallaud-Belkacem et son entourage, pour vous convaincre que c'est une super bonne réforme et que c'est celle-là qu'il fallait le faire? Comment ils font pour vous convaincre, Hakim?
Bah, comment il faut pour nous convaincre? Bah, déjà, vous avez beaucoup
parce que c'est mal engagé, les conférences de presse, visiblement.
Oui, mais alors, si vous voulez, Najat Vallaud-Belkacem joue aussi beaucoup sur ce côté jeune fille prometteuse du gouvernement. Il y a ce côté aussi diversité sur lequel s'est beaucoup appuyé François Hollande. Voilà, pour Najat Vallaud-Belkacem, qui est issu de milieux modestes, mais qui a fait Sciences Po, qui est en quelque sorte finalement le modèle de cette école républicaine dont on nous fait les mérites tous les jours. Donc il y a aussi cette volonté. D'ailleurs, Najat Vallaud-Belkacem insiste beaucoup, par exemple, sur la scolarisation des enfants en banlieue, sur la diversité, on l'a vu, avec la notion aussi de respect d'égalité entre droits et femmes. Voilà. Il y a aussi une dimension politique. Après, ce qu'on voit aussi avec Najat Vallaud-Belkacem, c'est que même si ce n'est pas une spécialiste de l'éducation, comme Vincent Peillon, par exemple, il avait un bilan plus ou moins mitigé, notamment avec la réforme des rites, mais ce qui est sûr, c'est que Najat Vallaud-Belkacem est une très grande bosseuse, elle travaille beaucoup, et ça, c'est non négligeable. Et là-dessus, on le voit, dans les questions qu'on lui pose, même si elle ne connaît pas forcément l'éducation sur le bout des doigts, elle est béton, entre guillemets, sur ses dossiers.
Marie-Caroline Missire, dans les coulisses, comment on prépare au ministère la rentrée?
Alors,
on doit roder le discours, j'imagine.
Absolument, et ça s'est préparé très en amont par toute la pyramide éducation nationale qui est constituée de différentes couches qui vont du recteur jusqu'à l'inspecteur d'académie, etc. Tous ces gens travaillent d'arrache-pied pour dire à la rentrée est techniquement réussie. C'est une petite phrase qui revient à chaque rentrée.
Ça veut dire que c'est pas
techniquement
formidable.
Réussi, ça veut dire que tout roule, tout le monde a sa classe, ça va se passer correctement, il y a quand même 12 millions d'élèves. On a mis en route la machine.
Alors, le discours que l'on rôde, il y a une réunion préparatoire.
Le discours que l'on rôde, alors, il y a une réunion qui est très importante, qui s'appelle la réunion des recteurs, et qui se tient 3-4 jours avant la conférence de presse de la ministre. On réunit tous les recteurs en Sorbonne, on leur fait un petit frichti sympathique, et surtout, ils écoutent le discours de la ministre, qui était aussi très long cette année, paraît-il, et le discours de tous les directeurs, et on leur donne un petit dossier avec tout ce qu'ils doivent savoir sur la rentrée. Et ça, c'est vraiment le moment où à la fois les potins s'échangent sur qui va être nommé où, va y avoir énormément de mouvements.
Une réunion en potin, on est intéressé,
réunion
voilà,
potin,
on regarde les postes.
Qui sera DIRCAB, qui sera conseiller à l'Élysée, etc. Et puis, c'est surtout là où on sent l'ambiance de la rentrée, où on sent si le politique, le ministre en place, a vraiment envie d'y aller, est inquiet, est dans un bon mouvement, a l'opinion derrière lui ou pas, parce que tous ces gens ont connaissance du terrain, évidemment. Hein, les recteurs savent ce qui se passe dans les classes et savent à peu près l'humeur. Sur la réforme du collège, ils ne sont pas très tranquilles. Vous l'avez dit, il y a une grève qui s'annonce. Donc, c'est un petit peu une grande représentation. Tout le monde essaye de se rassurer. Effectivement, beaucoup de choses se jouent entre les lignes, dans les documents qui peuvent fuiter de ce grand raout des recteurs. Et c'est vraiment là ce qui marque le lancement de la rentrée dans l'éducation nationale.
C'est peut-être pas une première, mais ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé à Kim Kasmi que l'on parle de la rentrée et aussitôt d'une grève qui s'annonce à 15 jours près.
Alors c'est vrai que dans les 3 dernières années, une grève dès la mi-septembre, non, ce n'était pas arrivé. C'est rare. En général, les grèves arrivent plutôt vers octobre, novembre, mais là, 2 semaines après la rentrée, c'est extrêmement rare. Et cela montre bien aussi le climat de tension qui, malgré les vacances, n'a pas été apaisé.
Alors cette réforme des collèges qui est au cœur du débat, on va écouter François-Xavier Bellamy, qui est professeur de philosophie, adjoint au maire de Versailles. Il était l'invité mercredi dernier des matins de France Culture de Guillaume Herner.
Nous avons aujourd'hui le système scolaire le plus inégalitaire qui soit. Et avec cette réforme, nous sommes en train de priver les élèves qui en avaient besoin de dernières occasions de sortir de leurs conditions. Car nous ne nous faisons aucune inquiétude pour les élèves des milieux les plus favorisés, des familles les plus installées. Ils trouveront toujours l'occasion, eux, de faire du latin et du grec dans des établissements privés ou dans des officines privées qui profitent à plein de la crise de l'éducation nationale. Ceux qui vont souffrir de cette réforme, ce sont précisément les élèves de Seine-Saint-Denis où le latin et le grec s'étaient le plus développés ces 10 dernières années et qui, c'est vrai, trouvaient dans cet enseignement non pas seulement une stratégie sociale pour s'en sortir, mais une occasion de remédiation à la crise de la transmission de la langue et de la culture. C'était pour beaucoup d'élèves l'occasion de renouer avec des racines culturelles décisives et c'est exactement de cela que nous sommes en train de les priver. Et c'est une tragédie, cette réforme est une tragédie.
Marie-Caroline Missier, c'est une... Tragédie était le plus convaincant que les conseillers de la ministre.
on entend bien que cette réforme n'a pas été comprise. Pour reprendre une expression que j'aime bien et qui est très parlante, qui est utilisée par un haut fonctionnaire qui est assez rigolo, il dit « on fait pas une réforme quand on est ministre en ouvrant le capot d'une voiture. Quand on essaie de vendre une voiture, on laisse le capot fermé puis on la regarde. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert le capot. On a montré les programmes, la pédagogie avec du jargon, on a fait des schémas pour expliquer l'interdisciplinarité. Personne n'a rien compris. Et le message a été confus. Donc, nous, journalistes, on a fait notre boulot, c'est-à-dire que on est, je pense, Hakim ne me contredira pas, une majorité à penser que c'est plutôt une bonne réforme, mais on a aussi été obligés d'entendre cette incompréhension, cette inquiétude de l'opinion, et du coup on est pris entre deux feux, entre les syndicats réformistes qui sont plutôt copains avec les journalistes, il faut le dire, parce qu'ils nous donnent des infos, et voilà, qui poussent sur la bonne réforme, et puis une partie de l'opinion et aussi beaucoup de rédacteurs en chef, d'éditorialistes qui étaient plutôt contre la réforme et qui n'entendaient pas forcément les arguments des spécialistes de l'éducation, les arguments pédagogiques.
Ce sont des éditorialistes et pas, ils baignent pas dans l'éducation nationale comme vous. Voilà,
c'est systématique. Quand un sujet sur l'école arrive sur le devant de la scène médiatique, il est immédiatement confisqué par les non-experts du champ éducatif, par les éditorialistes qui arrivent avec souvent des souvenirs scolaires, avec une pensée sociale sur l'école en fonction du milieu dont ils sont issus, de la parole politique qu'ils portent, du journal qu'ils représentent. Et les journalistes d'éducation ne sont plus du tout dans le débat. En général, ils ne sont pas invités d'ailleurs, on ne leur demande pas leur avis. Mais alors les intellectuels, les éditorialistes et la ministre les a immédiatement taclés. Mais ça, c'est un peu dommage que finalement, à un moment, on aurait besoin d'avoir des arguments de spécialistes. On ne demande pas aux spécialistes.
Hakim Kasmi, avant de parler du privé, la suppression des classes bilingues et européennes, c'est dans la réforme ? C'est une bonne réforme ?
Alors, moi, j'ai parlé un peu comme Caroline, c'est vrai que dans cette réforme, on est partagé, mais si vous me demandez mon avis à moi, Frédéric, je vous dirais que non, ce n'est pas une bonne idée de supprimer les classes bilingues et les classes européennes, car contrairement aux préjugés, contrairement à ce qu'on peut souvent entendre, il n'y a pas que les très bons élèves dans les classes bilingues et européennes. Elles ne sont pas que dans les beaux quartiers ou dans l'ouest de la région parisienne ou dans les centres-villes, dans les grands établissements de centre-ville de province, car très souvent, moi, je m'en suis rendu compte, j'ai fait des reportages, on a fait sur France Culture, d'ailleurs, on a même fait le jour où la ministre est venue chez nous en matinale. Très souvent, j'ai eu des élèves qui étaient moyens en classe bilingue et qui m'ont dit, bah voilà, le fait d'être avec des bons élèves, ça m'a motivé, moi aussi, faire plus. Et du coup, j'ai eu des meilleurs résultats. Parce que très souvent, pour ces enfants, souvent issus de classe moyenne, pour eux, c'est aussi une manière de leur donner un espoir, de leur dire, voilà, c'est pas parce qu'on est issu de familles très modestes ou de classe moyenne qu'on doit seulement faire, comme tout le monde, un bac général ou un bac pro, comme souvent on l'entend chez les élèves qui très souvent nous disent, voilà, moi en troisième, on m'a dit, non, toi, t'y arriveras pas, t'es pas assez bon, faut que t'aies un bac pro. Et souvent, ces classes-là, elles permettent de donner une meilleure estime de soi et de remotiver les élèves.
Alors pour cette rentrée, Hakim, on l'a dit, vous avez choisi de vous rendre dans un établissement privé à Rennes. Quel est le discours des professeurs, plus généralement, pas spécialement sur la réforme ?
Par rapport à l'école privée,
À l'école privée et publique, ouais.
Alors justement, moi, je vais insister beaucoup là-dessus parce que sans trahir le secret, on a des auditeurs qui, bien sûr, nous ont écrit, des auditeurs professeurs qui se sont sentis stigmatisés, me disant que je faisais l'apologie sur l'antenne de l'établissement public privé, pardon. Alors que je n'ai pas fait de reportage sur le privé depuis 2 ans, donc c'est dire qu'on ne parle pas souvent sur France Culture du privé. Et la première chose que m'ont dit, en fait, les enseignants du privé, c'est surtout, avant de commencer l'interview, ne faites pas de stigmatisation. Nous ne sommes pas du tout en opposition. Nous ne sommes pas en opposition. C'est le mot que m'ont dit tous les enseignants du privé que j'ai rencontrés avant de faire les interviews. C'est vous dire, si on n'est pas du tout dans un état d'esprit de dire c'est la guerre entre le privé et le public, pas du tout. Parce que ces professeurs du privé, ils le savent, contrairement à leurs collègues du public. Ils ont des fois, même souvent, de meilleures conditions de travail. Ils ont aussi plus d'autonomie. Ça veut dire qu'ils peuvent tenter plus de choses sur la pédagogie, comme par exemple en supprimant les notes ou avec le travail personnalisé. C'est des choses qu'ils peuvent plus faire, contrairement au public, et puis les professeurs me l'ont rappelé, ils nous ont dit, attention, nous, on travaille dans le privé, mais on dépend du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes payés par le ministère de l'Éducation nationale, car nous sommes dans les écoles avec contrat, sous contrat.
Marie-Caroline Missy, Hakim Kasmi, merci beaucoup.
Rentrée médiatique sous haute tension en ce mois de début septembre.
Qui
qui contrôle les médias? Qui vous donne accès à l'info? C'est ça, les enjeux de la rentrée en 10 minutes.
Les médias du jour, c'est donc la rentrée.
Allez, on commence avec la rentrée de Canal+, qui se précise.
Après le grand ménage de Vincent Bolloré ces dernières semaines, Canal+ a officiellement...
Premier chantier, celui d'une chaîne tout info. Il y a besoin en France d'une nouvelle chaîne d'info, Delphine Hermet.
Le secret des sources.
Voilà, c'est un autre rendez-vous important de la rentrée, les médias avec beaucoup d'agitation. On a même parlé de tornade à Canal+, Olivier Milot pour Télérama. C'est aussi votre rentrée avec une nouvelle formule pour Télérama, avant de parler de Canal+ et de France Télé.
C'est une nouvelle formule de toute la partie télévision de Télérama, de tous les programmes télé, parce que les usages changent extrêmement rapidement. Aujourd'hui, tout le monde utilise, ou beaucoup de gens utilisent la télévision de rattrapage. Beaucoup de gens vont regarder des films en vidéo à la demande. Là, quand vous regardez les chiffres qui sont tombés cet été, il y a un tiers des Américains qui, aujourd'hui, sont abonnés à une plateforme de vidéo à la demande. 10% des moins de 35 ans qui n'ont plus que ça, qui n'ont plus de poste de télévision. Donc, cette nouvelle formule, elle a pour objet, notamment, d'offrir à nos lecteurs la possibilité d'avoir plus de choix, de sélection dans cette espèce de profusion de programmes qu'on a à la fois dans ce qu'on appelle le linéaire, c'est-à-dire ce qu'on peut regarder directement à la télévision, et le délinéarisé, ce qu'on peut regarder en télévision de rattrapage sur des plateformes de vidéo à la demande ou autre. Voilà, on essaye de mettre un peu, de ranger un peu cette profusion, d'essayer de sélectionner ce qu'il y a de mieux, de plus intéressant, voilà.
Alors plus généralement, Alexandre Debouté, la rentrée 2015 dans les médias est une rentrée très riche, avec des rebondissements, et on a l'impression que ça n'en finit pas cette rentrée, on apprend toujours des choses tous les jours.
C'est un vrai feu d'artifice cette année, oui. On a une rentrée formidable, hein, puisqu'on avait au printemps l'arrivée de Mathieu Gallet et de Radio France, mais on avait en cette rentrée l'arrivée de Delphine Ernotte à la tête de France Télé. On était dans l'attente d'une grande réorganisation et d'un changement de management à Canal+. Et par ailleurs, il y a beaucoup de questions qui se posent sur les grands médias français, donc TF1 notamment, et aussi M6. On sent qu'on est un peu en fin de cycle et que cette rentrée a coïncidé donc avec toute une série d'annonces qu'on anticipait, enfin qu'on attendait et qu'on connaissait, dont on savait l'importance déjà avant l'été.
Alors le gros morceau, et c'est dans le Figaro d'hier vendredi, c'est Canal+ sous l'ère Bolloré. Alors on va entendre Vincent Bolloré qui donne au début de l'été sa définition de l'esprit Canal sur France Inter. Et le soir même, on entend ensuite la réponse des guignols de l'info.
C'est quoi l'esprit Canal ?
Cathy Perry. C'est un esprit de découverte, d'ouverture, d'initiative, parfois un peu trop de dérision. Je préfère quand ils sont plus dans la découverte que dans la dérision. Se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien.
Vous auriez un exemple de dérision acceptable, selon vous ?
J'ai vendu D8 il y a 2 ans à Canal+, et grâce à cette vente, je me retrouve à la tête de Canal+, et donc, à nouveau, de D8. C'est savoureux, non ?
C'est de la dérision, ça ?
En tout cas, moi, ça me fait bien marrer. Ça veut dire que même si je vends quelque chose, au final, ça m'appartient encore. pourquoi vous riez ?
Parce que vous riez, patron.
Oh, vous commencez à comprendre la dérision acceptable.
Ah, il est vraiment malin, le patron. Hein. C'est pas pour rien qu'il a un yacht. Hein.
Voilà, alors en général, Canal+ organise de grandes fêtes. Comment s'est déroulée la conférence de presse de rentrée, Alexandre Debouté ?
Il n'y a pas vraiment eu de cours de rentrée. Hein. Il y a eu l'anniversaire des 30 ans de Canal+, l'an dernier. Là, il y a eu surtout des annonces à l'issue d'un conseil de surveillance. Donc, c'est pas vraiment
les cours de rentrée.
C'est pas en tout cas les cours de rentrée telles qu'on peut les connaître avec mes confrères et consoeurs des journalistes médias. Là, on était en attente d'annonces qui ont fuité, largement avant même le conseil de surveillance de jeudi. Donc c'est un peu les méthodes, les temps changent. Les temps changent, les méthodes changent, les patrons changent. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais en tout cas là, c'est lourd de conséquences.
Olivier Milot.
Il faut quand même se souvenir, quand on écoute votre extrait, qu'il y a 15 ans, quand Jean-Marie Messier avait pris le pouvoir à Canal+, et qu'il s'était débarrassé de Pierre Lescure, d'Alain De Greff, on avait dit que l'esprit Canal allait être définitivement mort et tout. Quand Rodolphe Belmer, le successeur de Pierre Lescure, est arrivé, c'était quelqu'un qui venait du marketing, du commercial, et on pensait que effectivement l'esprit Canal serait mort. En réalité, l'esprit Canal est né à nouveau. Alors la différence aujourd'hui, c'est que il n'y a jamais eu autant une maison mère, en l'occurrence Vivendi, qui voulait intégrer, qui souhaite, alors pour le coup Bolloré l'a dit de façon extrêmement claire, intégrer Canal+ dans l'ensemble, dans son groupe, c'est-à-dire avec Universal, avec Dailymotion, avec etc., etc. Parce que même dans l'ère précédente, qui vient de se clore avec la prise de pouvoir de Vincent Bolloré, Canal+ appartenait à un groupe, mais jouissait d'une relative indépendance, même d'une indépendance totale. C'est ça qui va fondamentalement changer et c'est ça qui risque de... On risque de le percevoir réellement à l'antenne, ça. On sera, par exemple, assez curieux de regarder pendant le trimestre qui va venir combien d'artistes Universal va recevoir le Grand Journal. C'est tout à fait le type de synergie qu'on imagine qui pourrait être mise en œuvre. D'ailleurs, Vincent Bolloré s'en est pas du tout caché. Voilà, donc ces petites choses-là qu'on va regarder. Tout à l'heure, vous mettiez un extrait de PPD. On a appris hier que PPD devrait perdre également son poste.
Son statut de vedette.
Voilà, ouais. C'est la deuxième mort de PPDA, d'une certaine manière, puisque, a priori, donc le Grand Journal qui devrait... les Guignols qui reviendront encryptés... Une heure plus tard. Voilà, vont revenir encryptés une heure plus tard et devraient se dérouler dans une salle de rédaction et non plus, puisqu'ils ne sont plus en frontal par rapport à un JT, voilà, ce sera la salle de rédaction.
Et plus tourné vers l'étranger, paraît-il, que vers l'actualité française, la politique française.
Plus tourné vers le top 100 des personnalités mondiales, ce qui permettra d'en faire quelque chose sans doute de moins politique et de plus exportable.
Mais franchement, les Guignols de l'info encryptés une heure plus tard, ça avait ému beaucoup de monde, jusqu'à Manuel Valls, qui avait défendu l'impertinence... des Guignols, on n'en a pas trop fait, nous, journalistes, là-dessus, en relayant ce discours. Aujourd'hui, ça s'est apaisé.
Oui, aujourd'hui, ça s'est pas mal apaisé. Il y a eu, une levée de bouclier, un peu un tollé, une tempête médiatico-parisienne, quand même, autour du sujet. Je suis pas sûr que ça ait ému tant que ça, nos compatriotes. D'autant que, les audiences, concrètement, les résultats, les performances de ces programmes étaient de moins en moins bonnes, hein. Il y avait quand même ça patinait pas mal. Donc. Une remise en cause, c'était peut-être une bonne chose. Après, il y a les formes, la manière de prendre des décisions. Et c'est vrai que le style Bolloré aussi est un gros changement, là, en ce qui concerne Canal. Hein, quelqu'un qui s'implique à ce point et qui va, d'une façon iconoclaste, envisager des choses qui étaient inenvisageables, sans tabou, c'est quelque chose de nouveau.
Alors, le titre du Figaro, l'un des titres du Figaro d'hier, c'est « Murdoch latin », ça rejoint un peu ce que disait Olivier Milot. Il veut construire un empire et tout prendre.
Tout prendre, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une vision très mondialisée des choses. Vincent Bolloré, il est très présent en Afrique. Là où Canal+, en ce moment, gagne le plus d'abonnés, c'est en Afrique. Pour Vincent Bolloré, Canal+, n'est qu'une petite filiale de son groupe. Pour nous qui sommes dans le secteur des médias, c'est le phare. Et puis c'est vrai que Canal+ a une place à part dans le paysage audiovisuel français. Disons qu'on sent une volonté de normalisation comme dans les grandes multinationales. Oui. Ouais.
Alors, autre gros morceau de la rentrée média, c'est France Télévisions.
Il y a besoin d'une information qui garantisse l'indépendance et qui dépasse l'émotion. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Il y a une photo terrible, qui suscite une émotion extrême. Ce qui est important pour moi, c'est qu'au-delà de cette émotion qui pousse à l'action, il y ait des lieux, et le service public est le lieu privilégié du débat, où on aide à comprendre. Je pense que le service public est la garantie du pluralisme, est la garantie de l'indépendance, et sur l'information qui est si centrale dans nos sociétés, le service public ne peut pas, France Télévisions, ne peut pas être absent de la télévision d'information en continu.
Voilà Delphine Ernotte, présidente de France Télé hier matin dans le 7-9 de France Inter. Delphine Ernotte également l'invité de Télérama cette semaine. C'est ce qu'on appelle un plan de com' très étudié, Olivier Milot. On n'avait pas entendu Delphine Ernotte depuis sa nomination. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'elle qui parle pour France Télé.
Ah, il y a eu un vrai plan com de rentrée. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Delphine Ernotte a été nommée en avril dernier. Il y avait une période de tuilage de 4 mois avec l'ancien président de France Télévisions, Rémi Pfimelin. Elle s'est imposée un silence total et d'une certaine manière, la loi lui imposait un silence total tant qu'elle n'était pas encore en poste. Alors, à partir du moment où elle a pris ses fonctions, là, elle y allait vraiment. Elle a tout balisé, c'est-à-dire qu'il y a eu dans un premier temps une interview assez institutionnelle au Monde qui est parue le jour même de sa prise de fonction. Elle avait donné au Figaro, alors je sais pas, j'imagine que parce qu'elle avait pas donné l'interview, elle avait donné l'information de Rodolphe Belmer qui arrivait pour présider un comité stratégique. On a eu l'interview.
Donc, qui quitte Canal Plus pour France Télé.
Voilà. On a eu l'interview qui quitte Canal Plus pour France Télé. On a eu l'interview qu'on a pu faire paraître en partie sur le site le lundi, puis voilà. Puis la semaine suivante dans le journal. Ensuite, elle a été reçue par l'Association des journalistes médias. Alors là, d'un seul coup, vous avez 21 journalistes médias, c'est-à-dire, en gros, tous les journalistes médias devant lesquels elle s'est épanchée et qui ont répercuté sa parole un peu partout. Et pour finir, elle va faire une interview dans TV Magazine, diffusée à 10 millions de lecteurs. Donc, et bien sûr, elle était à France Inter hier matin. Si vous ajoutez à ça que, contrairement à ce qui se fait d'habitude, il n'y a pas eu de conférence de presse de rentrée organisée par France Télévisions, c'est-à-dire que la seule voix de France Télévisions, la seule voix autorisée de France Télévisions depuis la rentrée, c'est sa présidente. Et en plus, elle a pris quelques axes de communication très forts. Il faut lancer une chaîne d'information continue, notamment. Elle s'est invitée dans le débat sur la redevance et donc sur les moyens du service public. Donc elle a vraiment balisé un territoire de communication et elle a vraiment pris le pouvoir.
La chaîne d'information continue, France Télévisions, Radio France, dans le Figaro, on en dit quoi?
On en dit qu'en effet, c'était, je crois, il me semble, inscrit dans le cahier des charges qu'avait fixé le gouvernement, enfin la feuille de route qu'avait fixé le gouvernement ou à la future présidente, en l'occurrence, de France Télévisions. Je pense que c'est intéressant, en effet, que sur ce marché où il y a BFM TV et iTélé, il y a peut-être un autre acteur qui est peut-être un autre rythme, un autre point de vue sur l'actu. Ça mérite en tout cas d'être évidemment... c'était inscrit, hein, il fallait qu'elle prenne l'initiative là-dessus. On a été surpris par la rapidité de l'entente avec Mathieu Gallet à Radio France, hein, puisque à l'issue d'un déjeuner, pas plus tard que cette semaine, ils ont indiqué qu'ils s'entendaient pour monter cette télé d'infos en continu. Non, on va suivre ça avec intérêt. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question de synergie, de manière de travailler? En tout cas, c'est un gros dossier à venir.
Voilà, une chaîne d'infos qui ne sera pas un clone de BFM TV, dit-elle dans Télérama, et qui ne s'arrêtera pas à l'émotion, a-t-elle dit hier sur France Inter. Un mot sur la rentrée de Radio France, Olivier Milot, vous nous trouvez apaisé?
On vous trouve apaisé, oui, mais il faut dire que vous avez été très remuant au printemps, donc si on compare par rapport au printemps, oui, la rentrée est apaisée, mais c'est plutôt à vous de nous le dire.
Oh,
la chanteuse américaine Jill Scott qui interprétait Run, 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 extrait de son cinquième album Woman, sorti cet été. Mariée d'Arrigrand, après le marronnier, un regret d'une rencontre qui ne se fait pas lors de cette rentrée, c'est ça, rentrée politique et rentrée culturelle qui n'ont pas de lien entre elles.
Il n'y a pas beaucoup, effectivement, de lien entre l'actualité politique ou médiatique en général et l'actualité culturelle. Alors là, on a un exemple absolument intéressant, frappant, à propos des migrants, évidemment, c'est le film magnifique, à mon avis, et très fort, de Jacques Audiard. Alors, ce film, il est sorti au mois de mai, donc ça fait quand même d'Ipan. Il dit des choses précisément sur la situation dont on voit en ce moment une crise épouvantable, mais il le disait déjà. Et il le disait à sa façon, une façon fictionnelle, une façon esthétique, une façon non réaliste. Or, ces indications-là que nous donnait un artiste, un intellectuel, nous aurions eu intérêt à les considérer non seulement dans la rubrique cinéma, mais aussi dans la rubrique politique. Parce qu'il parlait politique, à sa façon, il parle politique. Pas d'une façon gauche-droite un peu minable, mais d'une façon très élevée, très intéressante, et qui lutte justement contre ce qu'on est en train de dénoncer un peu dans cette émission, c'est-à-dire le temps cyclique, le temps pseudo-fictionnel, le temps complètement abstrait. Donc si on prend ce temps-là qui nous met dans le spectacle permanent et récurrent avec des rentrées qui ne sont pas historicisées, qui n'ont pas du vrai temps, si vous voulez, eh bien il y a ce personnage qui s'appelle le migrant, et le migrant, il n'a pas de visage, il n'a pas de nom, et il est destiné à être sur des images, il n'est pas incarné. Donc, bien sûr, là, aujourd'hui, nous avons malheureusement l'image tragique du petit enfant. Il a fallu avoir cela pour que le migrant prenne une sorte de vie. Mais le film de Jacques Audiard l'incarnait déjà. Il l'incarnait et d'ailleurs lui donnait un nom. C'est un film qui a un nom de personnage. Et nous n'avons pas compris, je crois, ce film au moment où il est sorti. Parce qu'il y a eu l'info plus ou moins people, fallait-il qu'il ait la palme, etc. Ou l'analyse esthétique que les journalistes culture ont très bien fait, mais il n'y a pas eu autre chose qui se développe dans ce film et qui, à mon sens, est d'ordre vraiment politique.
Mariée d'Arrigrand, merci.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Quel livre choisir pour cette rentrée littéraire? La question se pose chaque mois de septembre avec quelques 600
romans. Des noms, des plumes, premier roman ou auteur confirmé qu'on prend l'habitude de retrouver au moment de la rentrée littéraire.
Bonjour Ilana Mor-Youssef, responsable de la rubrique Livres de France Inter.
Bonjour Frédéric.
Alors il paraît qu'il y a juste une mèche de cheveux qui dépasse dans votre bureau au-dessus des livres qui s'entassent dans la pièce. Alors pour vous Ilana, la rentrée, c'est un marathon, 600 romans. Comment faites-vous? Comment fait-on?
La rentrée des livres, en fait, elle se prépare quasiment dès le mois d'avril. On commence à en parler aux éditeurs qu'on rencontre. Alors, qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce qui sort chez vous? Sur quoi allez-vous mettre l'accent? Les attachés de presse commencent à nous convier à des cafés, déjeuners, etc. pour nous parler des points forts de leur future rentrée. Et puis, ensuite, ça s'accélère. C'est-à-dire, on commence à recevoir les épreuves pour certains journalistes. On commence à établir les sélections, puisque France Inter a une sélection avec le journal du dimanche. Il faut savoir que cette sélection qui paraît fin août, en réalité, elle est bouclée début juillet. Donc, il faut lire vite et beaucoup.
Sur 600 livres, on en lit combien? On sélectionne comment?
Alors, on n'en lit pas 600, évidemment, c'est évident. On sélectionne d'abord ceux dont on pense qu'ils seront absolument incontournables, qu'on ne peut pas ne pas avoir lu, c'est-à-dire le Christine Angot, le Toni Morrison, des gens qui sont comme ça des poids lourds de la rentrée. Et puis, le reste, eh bien, ça dépend beaucoup des relations qu'on a avec les gens. Par exemple, je travaille très bien avec certaines attachées de presse, dans ce sens que quand elles m'appellent et qu'elles me disent « ce livre-là, écoute, tu connais pas l'auteur, mais regarde-le, il vaut vraiment la peine », eh bien je regarde. Mais ça, c'est une relation de confiance, parce que je sais qu'avec ces personnes-là en particulier, ça se passe bien. Il y a des éditeurs qui peuvent m'appeler en me disant « écoute, en cette rentrée, voilà, j'ai un livre ». important, c'est celui-là que je vais défendre, et vraiment regarde-le. Et cela, je les reçois en général dès le mois de juin, et tout est fait et avant de partir en vacances. En fait, pour les éditeurs, c'est très très important qu'on ait les livres avant de partir en vacances, parce que c'est pendant les vacances après qu'on lit.
Les livres que vous n'avez pas aimés, Ilana Mor-Youssef, il y a déjà eu un premier prix, hein, le prix du roman FNAC, Laurent Binet.
Oui.
Et non, allez-y.
Alors c'est intéressant parce que c'est un livre à propos duquel il y a eu un...
La septième fonction du langage.
Voilà, la septième fonction du langage. C'est un livre à propos duquel il y a eu un début de polémique parce que Laurent Binet est parti de la mort de Barthes. Il a imaginé que c'était un assassinat et donc qu'il y avait une enquête et que tout le monde dans le milieu politique et intellectuel était a priori suspect. Donc c'est l'occasion de passer en revue évidemment tous les grands intellectuels de cette époque, Michel Foucault, Solers, Kristeva, BHL, Althusser, etc., etc. Et il faut dire quand même avec certains, il a la plume un peu trempée dans l'acide. Et bon, ça n'a pas été du goût de tout le monde. Voilà, je
sais pas un coup de cœur pour vous.
Non, absolument pas. Alors vraiment, moi, je dois dire que je me suis profondément ennuyée en lisant ce livre. Mais j'en connais d'autres qui ont aimé.
En revanche, le coup de cœur, il est où dans cette rentrée pour Ilana Mor-Youssef?
Alors moi, j'ai beaucoup aimé le livre de David Grossman, Un cheval entre dans un bar. Voilà, imaginez qu'un jour vous recevez un coup de fil de quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis le collège, qui a été vaguement un camarade, et qui vous dit voilà, je viens à mon spectacle. Et vous êtes un magistrat très réputé, et ce genre de divertissement n'est évidemment pas pour vous, c'est vulgaire. Vous y allez, vous ne savez pas pourquoi, mais peut-être qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a des choses que cet ancien ami a à vous dire et que vous n'avez pas envie d'entendre. Et voilà, c'est comme ça que commence ce livre.
David Grossman, qui était sur France Culture, l'invité les matins jeudi dernier. On peut réécouter les matins en podcastant sur le site de France Culture. L'accord sur prix est engagé. Là, on a eu la première sélection du Goncourt qui est donné remis en novembre, dans deux mois.
Oui, tout début novembre.
Voilà, je crois qu'il y a 15 ouvrages. Il y a des surprises.
Oui, en ce qui me concerne, oui, il y en a une. Isabelle Le Tissier, la navigatrice, mm-hmm. figure dans cette sélection pour un roman qui est paru en mai, ce qui, à mon avis, veut simplement dire que le jury a voulu saluer ce roman, qui a été bien accueilli par la critique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais à mon avis, elle n'a pas énormément de chance. Mais voilà, c'est un coup de chapeau, c'est une façon de rendre hommage à son travail.
Merci beaucoup, Ilana Mor-Youssef. Le clin d'œil de Yacine Bouzard, la rentrée de France Culture.
Ce matin, on vous a convié à cette conférence de presse qu'on a voulu un peu l'image de Radio France, donc à la fois sérieuse, un peu déconnante aussi.
Bienvenue chez vous, hein, c'est le service public, donc c'est vos impôts, malgré votre niche fiscale, bien sûr. Nous allons vous détailler les programmes et les nouveautés de toutes les chaînes de Radio France. Ça va être très très long. Si ça se trouve, c'est aujourd'hui que vous allez pouvoir passer un niveau à Candy Crush. Hein.
France Culture n'est pas en reste, puisqu'elle ne sera ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, vous le verrez bientôt.
Guillaume Erner sera tous les matins à l'antenne à 6h30.
Voici donc le premier matin passé ensemble, ça compte un premier matin, alors autant vous dire comment nous comptons vous réveiller. Le premier journal, Amélie Perrier, c'est à vous Amélie.
Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Thierry Garcin.
Le journal Olivier Denré, c'est à vous Olivier.
Bonjour Caroline Fourest.
La revue de presse internationale de Thomas Cluzel.
L'humeur des matins.
Quelle souffrance, quel effort admirable et quelle victoire exceptionnelle!
L'émission s'appelle Ping Pong. Alors, le ping pong, on connaît. Vous nous dites la culture est partout, surtout là où on ne l'attend pas. Alors, ça, ce sont des mots. En réalité, quelles sont les règles du jeu?
Si vous m'autorisez un seul anglicisme, c'est promis, je dirais que le principe, c'est enlarge your culture.
Enlarge your culture.
France Culture n'est pas en reste, puisqu'elle ne sera ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, puisqu'elle ne sera ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, ni tout à fait une autre, ni tout à fait la même.
Le président de Radio France, Mathieu Gallet, qui cite Verlaine lors de la conférence de presse de rentrée. Vous avez également entendu la voix de Mathilde Serrel, Sandrine Trainer, directrice de France Culture, Guillaume Erner et Charline Vanhoenacker, qui vient de recevoir le prix CB News pour la meilleure émission radio de divertissement. Si tu écoutes, j'annule tout sur France Inter. Merci à tous nos invités. L'émission se termine. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Marie-Caroline Missire et Hakim Kasmi de France Culture pour parler de la rentrée scolaire. Marie-Caroline Missire, auteure avec Louise Touré de Mère, libérez-vous chez Plon. Marie-Caroline, on vous retrouve demain, rue des Écoles, à un nouvel horaire.
À 17h, absolument.
Avec Louise Touré sur France Culture. Olivier Milot de Télérama et Alexandre Debouté du Figaro pour évoquer la rentrée média. Merci à vous deux. Et Ilana Moriosef de France Inter pour la rentrée littéraire. Notre regard extérieur de l'émission, Mariette Marie-Grand, sémiologue qui nous a accompagnés dans les coulisses de l'émission. Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation et le site franceculture.fr avec aux manettes aujourd'hui Clément Berman. Le clin d'œil de la semaine était signé Yacine Bouzard. Dans un instant, le journal de Mathieu Laurent, suivi de répliques sur Racine. Alain Finkielkraut reçoit les écrivains Nathalie Azoulay et Jean-Michel Delaconté. C'était Le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique, bonne journée sur Culture.
Lorsque l'on a eu cette conférence de presse, dès le début, quand on a vu que Mme Belkacem faisait son bilan en fait, depuis un an, on s'est même demandé s'il n'y avait pas un remaniement qui se préparait, pour tout vous dire Frédéric. Hein. Mm-hmm. Tellement il n'y avait aucune nouveauté et tellement on était vraiment dans le bilan, si vous voulez, pendant une heure.
Quand un sujet sur l'école arrive sur le devant de la scène médiatique, il est immédiatement confisqué par les non-experts du champ éducatif, par les éditorialistes qui arrivent avec souvent des souvenirs scolaires, de la parole politique qu'ils portent, du journal qu'ils représentent. Et les journalistes d'éducation ne sont plus du tout dans le débat.
Même dans l'ère précédente, qui vient de se clore avec la prise de pouvoir de Vincent Bolloré, Canal+ appartenait à un groupe, mais jouissait d'une relative indépendance, même d'une indépendance totale. C'est ça qui va fondamentalement changer. On risque d'en voir, on risque de le percevoir réellement à l'antenne, ça.